Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chères femmes et bien chers amis, c'est aujourd'hui le troisième dimanche après l'Épiphanie. Et l'Église propose à notre méditation dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 8, un double miracle. Le premier est en faveur d'un juif lépreux, et le second en faveur d'un centurion romain, et même pas pour lui, pour un de ses serviteurs, qui est très malade, qui est paralysé. Par ce double miracle, la Sainte Église nous montre, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre, que toutes les nations sont appelées à entrer dans le royaume de Dieu, pour prendre part au banquet céleste où la divinité sera l'aliment de nos âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est catholique, elle est universelle. Elle est pour tous les temps, tous les lieux, toutes les époques, toutes les personnes. Allez, baptisez, prêchez. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'Église est ouverte à tous les hommes de bonne volonté. La deuxième partie de cette phrase est très importante. L'Église est pour tous les hommes de bonne volonté. Et c'est ce que les anges déjà ont chanté à la crèche le jour de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Sous-entendu, il n'y a pas que des hommes de bonne volonté sur la terre. Il y a aussi malheureusement des hommes qui n'ont pas la bonne volonté. Donc notre Seigneur apporte avec lui la paix pour les hommes de bonne volonté. Et il apporte la guerre pour les hommes qui ne sont pas de bonne volonté. On peut le prouver très facilement par le texte d'aujourd'hui, le texte de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va guérir ces deux personnes qui viennent demander un miracle. D'abord le lépreux juif, et ensuite il va guérir le serviteur du centurion romain. Mais dans la dernière partie de l'Évangile, le ton change complètement. Je vous dis notre Seigneur, que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront de place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc deux groupes, les hommes de bonne volonté qui seront guéris et qui seront mis sur le chemin du ciel. Et les hommes qui ne sont pas de bonne volonté, qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, qui refusent son Église, et qui seront jetés dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Alors développons un petit peu à partir du texte sacré. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne et les foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui, et l'adorant lui dit, « Seigneur, « si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Et Jésus, étendant la main, le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Notre Seigneur Jésus-Christ montre donc sa divinité par ce miracle. C'est une théophanie, une épiphanie. Il montre sa divinité, il prouve sa divinité en touchant de son humanité le lépreux et le guérissant par le privilège de sa divinité qui est cachée sous l'humanité. On voit un homme, mais cet homme est aussi la deuxième personne de la Sainte Trinité à cause du mystère de l'incarnation, mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ a une double nature. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais une double nature, il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Comme il est parfaitement Dieu, il peut nous sauver, donc nous délivrer de la lèpre du péché. Et comme il est parfaitement homme, il peut aussi nous toucher et mourir pour nous sur la croix. Alors notons deux choses dans ce miracle. D'abord, Notre Seigneur Jésus-Christ va nous parler de la grandeur du prêtre. Il dit ceci, gardez-vous d'en parler à personne, mais allez, montrez-vous au prêtre et offrez le don que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Qu'est-ce que vient faire ce prêtre dans cette histoire? Qu'est-ce que vient faire ce prêtre de l'Ancien Testament qui n'est pas encore capable de pardonner les péchés? Les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient aucun pouvoir pour pardonner les péchés. Dieu ne va instituer le sacrement de l'ordre que le soir du jeudi saint, mais qu'il ne l'a pas encore institué au moment où il parle. Mais notre Seigneur prépare en quelque sorte le terrain. Il nous dit en quelque sorte, actuellement, c'est moi qui vous guéris, parce que je suis au milieu de vous. Mais un jour, je viendrai à vous par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui viendra à vous et qui m'apportera à vous. Et j'obéirai à la voix de ce quelqu'un d'autre qui sera le prêtre catholique et quand il me donnera l'ordre, ceci est mon corps, ceci est mon sang, j'obéirai à sa voix et je descendrai sur l'autel. Et lorsqu'il me donnera en communion à votre âme et qu'il vous le dira, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie trois fois. Eh bien, lorsque ce prêtre déposera l'hostie consacrée sur votre langue, notre Seigneur Jésus-Christ, moi-même, je viendrai en vous, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, en demandant à ce lépreux guéri d'aller se montrer au prêtre, notons que il guérit d'abord, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans un autre cas, un autre miracle, c'est lorsque les lépreux, il y en avait 10, vont ensemble voir les prêtres qui sont guéris sur le chemin. Mais là, il est guéri avant. Jésus, tendant la main, le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, sa lèpre fut guérie. Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de grandeur. D'abord, la grandeur du sacerdoce qu'il prépare. C'est pour ça qu'il envoie vers le prêtre. Le prêtre, malgré son indignité, malgré ses limites, malgré ses propres péchés, le prêtre n'est pas impeccable, il a ses péchés, malheureusement, comme tout le monde, moi le premier. Le prêtre a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir donc d'enlever la lèpre du péché, de guérir de la lèpre du péché. Donc notre Seigneur annonce la grandeur du sacerdoce. Et indirectement, il va annoncer aussi la grandeur du sacrement de pénitence. Montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a prescrit. Il nous explique que après qu'il aura institué le Saint-Sacrement et la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie et l'Ordre, il faudra aller voir le prêtre, se mettre à genoux auprès du prêtre et dire au prêtre la même chose que ce lépreux a dit à notre Seigneur. « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir, vous pouvez me purifier. » Et le prêtre, au nom de notre Seigneur, étendra la main, le touchera et dira à ce pénitent, « Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et à ces paroles mêmes, au moment précis où cette phrase touche le cœur de l'âme qui regrette ses péchés, donc qui a la contrition, l'accusation et qui est prêt à la réparation, à cet instant même, cette âme sera guérie. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ ici nous parle aussi de la grandeur du sacrement de pénitence. Donc deux sacrements, sacrement de l'ordre et sacrement de pénitence. Et on retrouve exactement le même thème avec le deuxième miracle. Lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, c'était sa ville, n'oublions pas que la ville de notre Seigneur c'est Capharnaüm, un centurion, donc un païen, un homme de bonne volonté, attention, païen de bonne volonté, qui cherche Dieu. Un centurion s'approcha de lui, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, « Va et il va, et à l'autre, « Viens et il vient. » Et à mon serviteur, « Fais cela, il le fait. » En entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. » Alors Jésus dit au centurion, « Va, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Donc ce païen s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, comme c'est un homme de bonne volonté, comme je vous l'ai dit, qui cherche Dieu. Il a l'humilité. Il se présente avec humilité. Il se présente avec confiance. Et il fait un acte de foi. Il fait un acte de foi en disant, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement. Il ne demande pas directement, s'il vous plaît, guérissez-le. Il présente le cas. Il sait très bien que le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours ouvert, et que le simple fait de présenter le cas, tout de suite va ouvrir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et que notre Seigneur Jésus-Christ va le guérir. Notez aussi que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, je l'ai guéri, mais je le guérirai au futur. Il veut augmenter encore la foi de ce centurion. Alors ce dernier va redire cette prière que nous disons plusieurs fois pendant la messe, trois fois avant la communion des fidèles, et même trois fois avant la communion du prêtre. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Dominion sum dignus intres tu et tuum meum, sed tantum ni verbo et sanabitur anima mea. Notre Seigneur Jésus-Christ voit les bonnes dispositions dans cet homme. Il voit que cet homme recherche Dieu. Notez aussi que cet homme ne demande même pas la guérison pour lui. Il la demande pour un autre. Donc non seulement il y a l'humilité, non seulement il y a la recherche de Dieu, mais aussi en lui la charité. C'est pour son serviteur qu'il demande la guérison. Notez que cet homme dont il parle, ce serviteur, il est paralysé. De même que la lèpre, la paralysie est aussi un symbole du péché. La lèpre est contagieuse comme le péché. Le péché est contagieux dans le sens que quelqu'un qui est dans le péché mortel jusqu'au cou va irradier autour de lui une mauvaise odeur, la mauvaise odeur du péché. Et tous ceux qui vont le toucher vont être contaminés par cette mauvaise odeur et par le péché de scandale, par le mauvais exemple que donne le pécheur, d'autres vont être contaminés et aussi devenir des pécheurs. Là, dans le deuxième cas, le deuxième miracle, c'est un cas de paralysie. La paralysie empêche le mouvement. Ce serviteur ne peut pas venir par lui-même. S'il avait été capable de marcher, il serait peut-être venu par lui-même. Peut-être que le centurion lui aurait dit, allez-y par vous-même, allez voir vous-même voir notre Seigneur, il vous écoutera. Alors, son maître vient à sa place. Mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement, il ne peut pas venir. Notre Seigneur Jésus-Christ non seulement guérit ceux qui viennent à lui pour demander la guérison, mais il va guérir aussi ceux qui ne peuvent pas venir, mais qui ont le désir d'être guéris, qui cherchent Dieu, qui cherchent le vrai, qui sont des hommes de bonne volonté. Notre Seigneur Jésus-Christ va guérir donc à la fois le juif, lépreux, et à la fois le serviteur du centurion, le centurion romain. Ceci nous explique que tous les hommes sont appelés dans l'Église catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique arche de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Personne ne peut être sauvé sans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais attention à l'avertissement solennel que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ en cette deuxième partie de l'Évangile. On pourrait presque croire que cet avertissement arrive comme des cheveux sur la soupe. Et pourtant, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait, ce qu'il dit. Beaucoup viendront de l'Orient à l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui sont ces enfants du royaume? De qui parle-t-il? Les enfants du royaume, c'est le peuple élu de l'Ancien Testament. Le peuple élu de l'Ancien Testament va se diviser en deux. Ceux qui vont croire, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui vont répondre à l'appel du Messie. Le Messie a été annoncé pendant des siècles et des siècles, ne l'oublions pas. Déjà avec Adam et Ève, Dieu parle du Messie. Il annonce la femme qui va écraser la tête du démon. Il annonce le Messie rédempteur. Et pendant des siècles et des siècles, et même des millénaires, entre entre la création d'Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur, à peu près 5000 ans qui sont passés. Mais pendant ces 5000 ans, Dieu m'a envoyé des prophètes qui vont annoncer l'arrivée du Messie. Le Messie souffrant. Ces prophètes vont annoncer que ce Messie aura les mains et les pieds percés. Qu'il sera crucifié. Et donc, dans ce peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, il y a deux sortes de personnes. Il y a tous ceux qui, comme le lépreux du début de cet évangile, le lépreux qui vient à lui, qui l'adore en disant « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier, c'est un juif. » Mais un juif qui cherche Dieu. Un juif qui a compris, cet homme devant moi qui me parle, c'est le Messie. C'est le Messie dont déjà le roi David parlait il y a 1000 ans. C'est lui qui amène le salut. Lui, il peut me guérir, il peut enlever mes péchés, il peut me débarrasser de cette lèpre, la lèpre physique et la lèpre spirituelle qui est cachée sous la lèpre physique. Donc il y a ceux, les juifs, qui vont se convertir. N'oublions pas que dans l'église catholique, tous les premiers catholiques autour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fondé cette église catholique, tous les premiers catholiques sont tous des juifs convertis, hein, tous. Toi, Sainte Vierge Marie, tu es juive, convertie à la foi catholique. Saint-Pierre, les apôtres, les premiers disciples, sont tous des juifs, convertis à la foi catholique, qui vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour la plupart d'entre eux vont même donner leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, ici notre Seigneur Jésus-Christ est clair et nous le dit, les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Pas tous, mais il y aura malheureusement dans ce peuple élu, beaucoup qui vont refuser notre Seigneur et se représenter par les pharisiens, plein d'orgueil, plein d'eux-mêmes, par les scribes, qui vont refuser alors qu'ils connaissaient les Écritures, qui vont refuser notre Seigneur. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se présente comme le roi, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Qu'il soit crucifié. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est présenté à Pilate, pour que Pilate donne l'autorisation de le tuer, il hurle de nouveau ces pharisiens, ces juifs qui refusent de se convertir. Il hurle qu'il soit crucifié. Et Pilate va se laver les mains pour bien montrer la responsabilité des juifs qui refusent notre Seigneur. Ils n'ont pas tous refusé notre Seigneur. Ce serait injuste de dire cela. Beaucoup vont se convertir. Mais hélas, beaucoup refuseront de se convertir. Et si les juifs crucifiés, les juifs convertis vont devenir les premiers catholiques et les plus fervents des catholiques de l'histoire de l'Église, les juifs qui refuseront notre Seigneur Jésus-Christ vont devenir malheureusement les plus haineux ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Ces ténèbres extérieures, évidemment, annoncent l'enfer dont notre Seigneur Jésus-Christ parle si souvent dans les évangiles, il en parle 63 fois, pas pour rien. Pour cela, mes bien chers frères, qu'il faut prier pour que nous soyons trouvés dignes d'appartenir à ceux qui vont être guéris, comme les juifs convertis, le lépreux d'aujourd'hui, comme le paralytique du centurion, comme le centurion lui-même. Alors, si je suis notre Seigneur, si j'accepte notre Seigneur, celui qui veut venir après moi, qui se renonce, qui porte sa croix, qui me suit, si j'accepte de me renoncer, de pratiquer l'humilité, la charité, le renoncement, si j'accepte de porter la croix, alors oui, je peux prendre la voie qui mène au salut. Mais hélas, si je refuse cela, c'est l'enfer. Certes, il faut prêcher que l'Église catholique est l'unique chemin qui mène à la vérité. Mais il faut aussi prêcher qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Ce qui veut donc dire que tous ceux qui sont en dehors de l'Église catholique ne trouveront pas le salut. Parce que le salut n'existe que par l'Église catholique, que par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'est répandu que sur l'autel catholique. Il n'est pas répandu sur l'autel de Vatican II. Il n'est pas répandu sur l'autel des protestants, sur l'autel des bouddhistes, sur l'autel des juifs, sur l'autel des musulmans. Il est répandu que sur l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en même temps, une troisième chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes chers frères, cette fois-ci en partant de l'épître aux Romains que l'Église nous donne en ce troisième dimanche de l'Épiphanie, après l'Épiphanie. Épître aux Romains, chapitre 12. Notre Seigneur nous donne un conseil. Saint Paul nous donne un conseil. Il parle par la bouche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle par sa bouche, plus exactement. Il va nous donner un conseil parce que nous voyons autour de nous l'apostasie des nations. Nous voyons autour de nous l'autorité officielle de l'Église qui apostasie publiquement. Nous voyons les hérésies sans nombre de Bergoglio et tous ceux qui le suivent. Nous voyons ces évêques autour de nous, ces prêtres autour de nous, dans l'Église de Vatican II, qui ne font qu'une seule chose, détruire les âmes, enfermer les âmes dans un chemin qui mène en enfer, jeter les âmes dans les ténèbres extérieures où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Alors on pourrait se décourager en disant « Mais c'est pas possible. Ça fait 50 ans que ça dure, puis la mort du pape Pie XII. Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps le bon Dieu va-t-il vouloir nous laisser sans autorité? Nous sommes orphelins d'autorité. Seigneur, ayez pitié de nous. » Il faut redire la parole du Seigneur, la parole du lépreux, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me purifier. » Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie et souffre extrêmement. Ce lépreux qui demande sa guérison, c'est moi, c'est vous, mes bien chers frères. Ce paralytique qui ne peut pas se déplacer par lui-même et qui est obligé d'agir par l'intermédiaire de son centurion, c'est aussi vous et moi, mes bien chers frères. Alors on pourrait, et je pense que c'est une grande tentation pour chacun d'entre nous, on pourrait se décourager en disant « c'est pas possible que ça dure aussi longtemps ». Alors écoutez le conseil de saint Paul. Ne vous vengez point vous-même, mes bien chers frères, mes bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras du charbon de feu sur sa tête. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le bien, le mal par le bien. Rendons le bien pour le mal. Même si nous sommes entourés d'apostats, même si nous voyons autour de nous ceux qui représentent l'autorité en principe officiel de l'Église se précipiter vers les enfers, ne nous décourageons pas pour autant. Prions. Prions avec humilité en demandant à notre Seigneur Jésus-Christ de nous aider justement à nous maintenir dans le chemin qui mène au ciel. Ça durera le temps que ça durera. Ça fait 50 ans que ça dure. Peut-être que ça durera encore 50 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Quand est-ce que le bon Dieu va intervenir? Quand il le voudra. Et au moment où la situation sera humainement complètement perdue, à ce moment-là, il utilisera un instrument tellement faible que nous serons obligés de voir dans cet instrument le doigt de Dieu qui parle. Comme il a utilisé une petite jeune fille de 17 ans, Sainte Jeanne d'Arc, pour sauver la France. Petite fille, Sainte Jeanne d'Arc, 1412, 1431, au 15e siècle. Alors, mes bien chers frères, demandons l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. Supplions la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à ne pas nous décourager, à nous approcher de notre Seigneur malgré notre lèpre, à envoyer quelqu'un si nous ne pouvons pas nous déplacer nous-mêmes parce que nous sommes paralysés. Et redisons à notre Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Ne cherchons pas à nous venger nous-mêmes. Mettons tout cela entre les mains de la bonté du bon Dieu, entre les mains du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, entre les mains du Cœur Immaculé de Marie, car eux connaissent et savent les tenants et les aboutissants qui nous permettront d'aller au ciel à leur suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.